RCFM, c'est votre jour de science. Fabrice Fenouillère, Christophe Zagaï.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine, Fabrice.
Également, Christophe.
Tout va bien,
mais vraiment,
s'est bien
oui.
passé.
Elle a été géniale, sous la pluie, mais très bien.
Eh bien, bah, encore mieux se terminer, figurez-vous, Fabrice, puisque nous allons recevoir aujourd'hui un invité d'exception. Il est le paléontologue le plus célèbre de France, l'homme auquel on doit notamment la découverte de Lucie, ce fossile préhumain de 3,2 millions d'années. Yves Coppens, qui a publié ses mémoires dernièrement chez Odile Jacob à travers l'ouvrage « Origine de l'homme ». Origine d'un homme et donc notre invité exceptionnel, Fabrice.
Eh oui, Christophe, et c'est vrai que c'est un immense honneur de le recevoir. Alors, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie de médecine, entre autres. En fait, c'est un CV complètement hors norme. Hein. On pourrait même pas le situer dans une émission. Mais si on devait rajouter justement un mot à ce CV, une phrase, eh bien, je me permettrais de mettre incroyablement et profondément humain. Voilà le Yves Coppens qu'on a rencontré dernièrement à Galet, qui a complètement réjoui et ému notre public, tant au-delà de ses découvertes, l'homme est passionnant. Et vous l'avez précisé au travers de ses mémoires, publiées il y a quelques mois, on parcourt 80 années de souvenirs, de voyages et de fouilles qui ont rythmé sa vie, mais qui sont aussi en miroir les mémoires de l'humanité. Alors de ses racines bretonnes à nos racines animales, de sa propre histoire à l'odyssée de notre espèce, on part tout de suite sur les traces d'Yves Coppens et de nos lointains ancêtres.
C'est votre jour de science, l'expert.
Bonsoir Yves Coppens.
Bonjour.
Quelle présentation de la part de Fabrice.
Oui, c'est écrasant, oui.
En tout cas, nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce soir dans C'est votre jour de science, Yves Coppens. Un lien particulier avec notre île?
Ben, un lien d'amitié, d'affection, de séduction immédiate, quoi. J'étais séduit d'avance, mais j'ai mis un certain temps à venir en Corse, tout simplement parce que j'étais ailleurs, quoi. Et j'étais notamment sur des grands chantiers, soit en Afrique, soit en Asie, soit même en Sibérie. Et puis j'étais invité, et puis j'étais très tenté depuis longtemps par votre île, quand même, hein, qu'elle n'est pas toute simple, hein, cette île. Elle est fantastique. Et donc, quand j'y suis allé, j'ai tout de suite été séduit, et depuis, je ne cesse d'y aller, voilà.
Et est-ce que vos racines bretonnes, Yves Coppens, vous rapprochent finalement un petit peu de nous par ces pierres, par ces roches, par ces menhirs sur lesquels vous êtes monté enfant et que vous connaissez également très bien sur notre île?
Ben, c'est ce qu'on dit dans bien des mondes, mais je n'en sais rien. C'est-à-dire que la Corse va avoir de la chance d'avoir de l'eau tout autour. Nous, on a beaucoup d'eau, mais on est quand même très très implanté dans l'Europe, qui elle-même est très implantée dans l'Asie. Donc ça fait un grand territoire de 44 millions de kilomètres carrés. Ça fait beaucoup. Donc il y a sûrement des rapports, mais moins, enfin je ne sais pas, peut-être moins qu'on ne pense. En tout cas, moi je m'y retrouve très volontiers, mais c'est pas forcément parce que je suis breton que je me retrouve en Corse, c'est aussi parce que je suis citoyen du monde, peut-être.
Bien sûr. Et plus que personne, hein, ce qui nous a vraiment étonné, Christophe, je me permets de le dire, parce qu'on a la chance d'avoir avec nous Yves Coppens, c'est ce citoyen du monde. J'ai essayé de le préciser comme ça, quelques mots en introduction. Elle a parcouru les terres du monde entier, et derrière tout ça, c'est l'humain à chaque fois qui ressort au-delà, hein, des squelettes, on va dire, qu'il a pu mettre à jour. L'humain, important pour vous, Yves Coppens?
Ben, essentiel. Essentiel. D'abord, dans l'existence, c'est évidemment le sourire de l'autre qui, pour moi, est la principale chose, et la principale source de joie. Et partout, à travers le monde entier, tous les proverbes disent on n'est rien sans l'autre, quoi. Et l'autre Corse est particulièrement important. C'est pas pour vous faire des compliments, mais je me sens bien chez vous, et il n'y a pas très longtemps, j'écrivais de Corse à une amie corse à Paris, et elle me disait, tu deviens plus corse que moi, et c'est bien d'aller voir les Corses chez eux, mais c'est pas bien de ne pas voir les Corses qui sont ailleurs, qui sont en métropole. Voilà, c'est très gentil, non?
Bien sûr. En parlant de la Corse, la préhistoire insulaire, elle est intéressante à vos yeux?
Ah ben, elle est passionnante. Elle est passionnante parce que, bien sûr, elle n'a pas l'âge des fossiles africains. Hein, mais depuis que l'homme a fréquenté les côtes de la Corse, d'abord il s'est installé sur les bords parce qu'il ne pouvait pas tellement rentrer à l'intérieur. Et puis ensuite, il s'est bien implanté. et il a conduit des civilisations de grands caractères, de grandes cultures, et très très particulier, très spécifique de l'île. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des menhirs que vos menhirs ressemblent à mes menhirs bretons. Ce sont des à chaque fois des constructions bien particulières. Et les cultures corses, enfin il y a de grands préhistoriens corses hein, qui mènent leur recherche de façon étonnante. Et chaque fois que j'y vais, et la prochaine fois ce sera tout bientôt, la semaine prochaine, je m'offre un petit déplacement vers un de ces sites fameux qui me réjouissent. En tout cas, c'est une succession de très grandes cultures, y compris l'actuelle, hein, c'est important.
Alors, ce qui est intéressant aussi, hein, puisqu'on vous tient là, Yves Coppens, hein, on vous garde, on sait que vous êtes un des rares, et c'est pas vous qui le direz, hein, on le dit pour vous, un des rares scientifiques à vous être assis à la fois dans le salon des Français et à la table des écoliers également de notre territoire. Vous racontez dans ce dernier ouvrage, chez Odile Jacob, eh bien 80 années de souvenirs, de rencontres, de voyages, d'initiatives, de résultats, de succès, de joie, plein de petits plaisirs, mais aussi des petits malheurs et de grands éblouissements. Votre plus grand éblouissement, ça a été lequel?
Je pense que c'est le premier bout de poterie que j'ai aperçu dans une petite falaise de Bretagne.
À quel âge?
J'en sais rien, mais j'avais entre 10 et 15 ans.
Ah voilà, vous n'étiez pas encore archéologue ou paléontologue, hein, vous étiez enfant, d'accord?
Oui, et j'étais passionné par l'archéologie depuis longtemps, j'étais passionné par l'archéologie au travers des livres et au travers des vitrines de musées. Mais un beau jour, un monsieur m'a emmené sur le terrain, pour nous c'est important le terrain, et puis m'a montré dans une petite falaise donc des bouts de poterie qui en sortaient, c'est-à-dire que j'ai eu le contact direct physique avec l'Antiquité. C'était une antiquité gauloise, c'était un peu plus de 2000 années, et mon émotion a été un de ces éblouissements, justement. Le suivant, je vous le raconte très très vite, le suivant, c'est que j'avais envie de trouver de l'homme fossile, vraiment des humains bien fossilisés et bien anciens, et je suis parti en Afrique tropicale en 1960, et dès 61, j'avais en main un petit crâne de quelques centaines de milliers d'années, et qui était une sorte de superbe sculpture à la fois de grès, c'est-à-dire de roche, et puis d'os, et donc j'avais cet autre éblouissement, et depuis je ne cesse d'être ébloui.
Mais vous le dites avec beaucoup de simplicité, mais ne serait-ce pas Chadanthropus uxoris que vous trouviez en 61 et qui a quand même bouleversé l'histoire de l'homme?
Vous connaissez tout.
On a des notes avec Christophe ici. Non mais vous le dites avec simplicité, mais ça a bouleversé.
C'est le premier fossile en plein cœur de l'Afrique.
Ah oui, donc c'est pas rien. Et alors, on vous connaît aussi, et désolé, on vous a posé mille fois, deux mille, trois mille fois la question, mais pour nos auditeurs, c'est toujours magnifique à entendre, hein. Yves Coppens, vous avez bien sûr aussi été l'un des pères de cette fameuse Lucie. Vous la découvrez dans quel cadre?
Alors, je la découvre dans le cadre d'une prospection d'un désert qui se trouve au nord-est de l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et puis la mer Rouge. Et dans ce désert, où nous étions déjà depuis 3 ans, nous avons trouvé quelques restes de pré-humains très anciens, d'humains très anciens, de plus de 3 millions d'années. Et c'était intéressant, mais c'était un petit peu comme ce qu'on avait trouvé l'année d'avant, donc c'était bien, mais enfin sans plus. Et puis ensuite, on en a trouvé d'autres. Et puis, à force d'en trouver d'autres, on s'est dit que c'était peut-être les ossements d'un même individu. Et pour 3 millions d'années, trouver des morceaux d'une même personne, c'est rare. En général, c'est un morceau par-ci, un morceau par-là. Et puis, petit à petit, c'est devenu véritablement 52 ossements. On en a 206. Hein. 52 ossements d'une même personne. Et cette même personne, comme on en a trouvé le bassin, on s'est aperçu en plus, si j'ose dire, que c'était un bassin féminin. Donc, au lieu de s'appeler Afar localité 288, elle est devenue Lucie.
Le paléontologue Yves Coppens est notre invité cette semaine dans C'est votre jour de science. On se retrouve dans un instant. Ah,
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with
Yves Coppens, on voulait vous faire découvrir cette chanson aujourd'hui avec Fabrice.
Ah oui, c'est une belle découverte.
Vous avez vu l'originalité du duo.
Yves Coppens est notre invité, le paléontologue le plus célèbre de France. On rappelle votre dernier ouvrage, ouvrage de mémoire, hein, Origine de l'homme, origine d'un homme, paru chez Odile Jacob. L'origine d'ailleurs de l'homme, Yves Coppens, parlez-nous de notre cousinage avec les grands singes.
Bah, l'origine de l'homme, elle est visiblement tropicale et africaine. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert jusqu'ici. On a beau chercher ailleurs, on ne trouve pas plus vieux, plus anciens ancêtres que dans ces régions-là. Et à force de plonger dans le passé, 3 millions d'années, 4 millions d'années, 10 millions d'années, à 10 millions d'années, on trouve en effet des gens qui ont bien l'air d'être, ces gens entre guillemets, qui ont bien l'air d'être des ancêtres communs. Des grands-papas, grands-mamans, à la fois des chimpanzés et de nous-mêmes. Il n'y a pas de doute, nous sommes très très proches des chimpanzés. Alors c'est un cousinage qui remonte à 10 millions d'années, donc ça va. Heureusement, parce que ma propre grand-mère, que je cite très très souvent, me disait « Si toi, mon petit-fils, tu descends du singe, moi, sûrement pas. »
Il y a encore des gens qui ont du mal avec ça, effectivement. Et ensuite, il y a cette logique de déploiement à travers le monde. On est certain de comment ça s'est passé ou il y a encore des mystères sur cet homme qui sort d'Afrique, entre guillemets ?
Bah, il y a toujours des mystères, mais plus on travaille évidemment, moins il y en a. Et on a quand même tous les jalons, même si on n'a pas le fil dans sa totalité. On a suffisamment de pointillés pour passer à la fois de ces ancêtres communs de 10 millions d'années à travers l'Afrique, à travers les millions d'années en Afrique, et puis un beau jour de remonter vers la Méditerranée et d'arriver au Proche-Orient autour de 2 millions et demi d'années, quoi.
Et pour autant, à quel moment devient-on humain ? Puisque là, on parle de préhumain, hein, on vous entend parler de cousinage, de grands singes. L'humain, Homo sapiens peut-être, on est sur 300 000 ans aujourd'hui pour les découvertes les plus récentes ?
Non, Homo sapiens, c'est au moins 500 000. On a trouvé 300 000, mais il était déjà répandu à travers toute l'Afrique.
D'accord.
Mais on devient humain bien avant. Hein. On devient humain autour de 3 millions d'années. À ce moment-là, ce n'est pas l'homme moderne, ce n'est pas l'Homo sapiens. C'est un autre homme. Ceci dit, à partir de 3 millions d'années, véritablement, pour des questions d'adaptation à un changement climatique, la tête se transforme, elle devient beaucoup plus compliquée, et comme elle devient plus compliquée, tout d'un coup, le bonhomme, au lieu de savoir des choses, il sait qu'il sait, il sait qu'il sait, et à partir de ce moment-là, c'est la conscience qui émerge, et puis c'est l'anticipation qui apparaît, et puis c'est la notion de soi, de l'autre, de l'environnement, de la mort qui apparaît.
C'est ça qui fait de nous des humains. C'est ça qui fait de nous des humains.
Absolument, parce que tout d'un coup, on est en présence d'êtres qui, sachant qu'ils savent, peuvent fabriquer des outils pour le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante. La bestiole qui se sert de, enfin le chimpanzé, le petit cousin qui se sert d'outils, il les prend et puis il s'en sert, quoi. Il s'en sert puis il les jette, et puis mais il n'anticipe guère, même s'il anticipe un petit peu parce qu'on est quand même cousin, il n'a pas du tout cette vision de l'avenir et du même coup du passé comme les paléontologues aujourd'hui. Que les hommes ont à partir de 3 millions d'années.
Et à ce moment-là, Yves Coppens, on a plusieurs espèces proches qui cohabitent, et on sait que Homo sapiens sera à un moment donné un peu plus seul, dernier sur la planète. C'est le cas à ce moment-là, il y a plusieurs espèces autour de nous.
Oui, c'est-à-dire que lorsque l'homme se répand à travers toute l'Afrique, c'est déjà un beau territoire. Et puis ensuite, bientôt à travers toute l'Eurasie. Et on imagine bien que la démographie à ce moment-là n'est pas telle que tous les gens puissent se rencontrer en permanence et se voir tous les dimanches. Donc comme ils ne se voient plus, ce sont des petites populations qui se développent séparément les unes des autres. Et à force de se développer séparément, elles deviennent des formes différentes, des espèces différentes, et à ce moment-là, c'est vraiment sur la Terre une cohabitation de plusieurs espèces humaines. Ceci étant dit, il est vrai que lorsque l'Homo sapiens se déploie, soit directement, mais je ne crois pas, autrement dit, soit par des guerres, mais c'est quand même un peu improbable à travers la Terre entière, mais simplement par son ascendance et son développement économique et son développement démographique, son développement technique aussi. C'est lui qui va prévaloir sur les autres, et puis les autres, petit à petit, les autres espèces, petit à petit, disparaissent, jamais tout à fait en totalité, parce qu'il y a eu quand même des hybridations, mais n'en disparaissent pas moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous des Homo sapiens sur la Terre entière.
Yves Coppens, nous possédons des gènes néandertaliens. En quoi ces données changent-elles notre regard sur nos origines ?
Je pense qu'elles nous donnent plus de fraternité, de même que la fraternité est souhaitable entre les humains d'aujourd'hui. Et quand même, la leçon de dire que tous les hommes sont nés d'une même forme il y a 3 millions d'années en Afrique tropicale, ça devrait lier les hommes.
Bien sûr.
Ce regard lie aussi les hommes du passé, si je puis dire, nos vieux paléo-frères. Et dans une certaine mesure, cette condescendance qu'au 19e siècle on avait vis-à-vis des gens d'avant et des gens d'ailleurs devrait se résoudre vers une plus grande fraternité, non seulement dans l'espace, mais dans le temps.
Et là, ce qui est intéressant, Yves Coppens, c'est, et on vous a entendu avec bonheur à Galet à développer ces idées, c'est que, et on sait aussi que vous avez préparé la charte de l'environnement en 2005 dans la Constitution française, eh bien, vous refusez aujourd'hui à condamner l'humanité. On était sur ces sapiens qui étaient finalement peut-être les derniers de plusieurs groupes humains ou préhumains qui ont pu cohabiter à une époque. Eh bien, vous ne condamnez pas pour autant l'homme, y compris l'homme qui maltraite, avec des guillemets encore une fois, sa planète. Vous êtes plutôt du genre optimiste.
Oui, ce sont deux choses différentes. Optimiste, c'est certain. Et je pense qu'on est trop alarmiste, en tout cas, en ce qui concerne la situation actuelle. Il faut faire confiance à l'homme et à la science. Et on va trouver des solutions qui vont éviter ces drames actuels que l'on fait sur le CO2 et les gaz à effet de serre, etc. D'une part, et d'autre part, je veux éviter aussi que l'on dise tout est de la faute de l'humanité. L'humanité, moi je l'ai vu naître, hein, et l'humanité quand elle est née, elle n'a rien fait d'autre que les autres mammifères, rien de particulier, elle a tenté simplement de survivre, et elle a survécu en puisant dans l'environnement. Et depuis, elle n'a cessé de le faire, et elle a pris conscience seulement au siècle dernier, je dis bien au siècle dernier, hein, même pas au 19e, mais elle a pris conscience au siècle dernier que, comme les gens étaient quand même très nombreux, 8 milliards de gens aujourd'hui sur la petite planète, et puis que la planète, justement, était petite et avait des dimensions quand même limitées, ça pouvait devenir important et un peu gênant et un peu embêtant et un peu catastrophique même à certains égards vis-à-vis de l'humanité. Mais encore une fois, c'est pas de sa faute à l'humanité. Et à partir du moment où, au contraire, d'elle-même, elle a trouvé la raison de ses malheurs et que d'elle-même, elle fasse beaucoup d'efforts pour les soigner, moi, je salue l'humanité.
Yves Coppens, merci encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine dans C'est votre jour de science. On rappelle votre ouvrage paru chez Odile Jacob, Origine de l'homme, origine d'un homme. Merci.
Merci à vous.
Merci
et
beaucoup.
Et à bientôt
Yves.
En Corse.
Oui, à bientôt. Tout bientôt.
Bonne soirée.
Oui.
Au revoir.
C'est votre jour de science dans l'actu.
Qu'est-ce que vous avez déniché, Fabrice ?
Une interrogation, en fait. J'ai déniché une interrogation qui vous concerne directement.
Allons bon, ça fait longtemps.
J'adore vous poser des questions et ça permet aux auditeurs de mieux vous connaître. Et là, c'est important. Est-ce que vous êtes plutôt du genre fidèle ?
Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Je parle en amour, pas en amitié. En amitié, je le sais.
Bien évidemment.
Bon, vous êtes fidèle. Alors, regardez-moi dans les yeux et redites-moi ça.
Je suis fidèle, Fabrice. Je suis mal à vous regarder dans les yeux. Je sais pas pourquoi.
C'est pas facile de voir si vous dites la vérité. En fait, sachez que, malgré tout, une étude anglaise très sérieuse, qui a été publiée dernièrement, permet de comprendre que détecter l'infidélité sur le visage d'un homme est plutôt très facile. Par contre, détecter cette infidélité sur le visage d'une femme est complètement insondable, très compliqué. Et pour arriver à cette conclusion, les chercheurs britanniques ont étudié les réponses de 1500 personnes à qui on a montré des photos d'hommes et de femmes en leur demandant s'ils pensaient que ces gens avaient trompé leur moitié ou non, sachant que les scientifiques avaient, eux, la bonne réponse. Eh bien, résultat, la marque d'infidélité est largement plus détectable sur le visage d'un homme volage que sur celui d'une femme aux mœurs équivalentes. Sachant, et c'est une seconde conclusion de cette étude très sérieuse, que ce sont les femmes qui, de très loin, savent le mieux repérer les fauteurs. Nous autres, gente masculine, n'ayant aucun réel don en la matière, donc méfiance ce soir en rentrant à la maison et voir la tête qu'on va faire face aux nôtres.
Voilà. Connaissez-vous le prix IG Nobel ? D'ailleurs,
oui,
vous auriez pu y participer.
Hein, je ne sais pas avec quoi, mais un peu.
Le prix IG Nobel, ignoble, en anglais, récompense les recherches les plus improbables dans tous les champs scientifiques. Alors, les prix, parfois reçus en main propre par leurs bénéficiaires, sont placés sous le signe de l'humour, qu'il s'agisse de récompenser des recherches a priori futiles ou de pointer ironiquement des initiatives désastreuses. Les prix décernés ont pour objet de faire rire puis faire réfléchir. La cérémonie est organisée chaque année à l'université d'Harvard. Elle a mis en avant des dizaines de recherches menées sur autant de disciplines scientifiques. Absurdes, étranges ou simplement drôles, donc les expériences récompensées ont certes peu de chances de repousser les limites de la science, mais possèdent le mérite relatif de fournir des réponses sur leurs objets. Alors par exemple, en psychologie, selon les auteurs de l'étude, les personnes se couchant tard seraient susceptibles d'être plus narcissiques, manipulatrices et psychotique que les leftos. Je comprends mieux pourquoi vous couchez tard, Fabrice. En biologie, lors de leur défécation, les chiens semblent s'aligner sur un axe nord-sud, un petit peu comme vous, révélant leur sensibilité au champ magnétique terrestre. Voilà, il aura fallu pas moins de 12 chercheurs venant de 3 pays pour arriver à cette conclusion. Et puis en médecine, quoi de mieux que le porc fumé pour stopper les saignements chroniques du nez ? C'est en tout cas sous cet angle que les chercheurs indiens et américains ont tenté de résoudre ce problème de santé gênant et incontrôlable. Encore faut-il vouloir échanger un désagrément contre un autre. On vous invite à essayer, mon cher Fabrice.
Avec grand plaisir, me couchant.
Voilà, et sachez que chaque année, plus de la moitié des participants viennent récupérer leur prix en personne. Ils n'ont pas honte du tout.
Ils n'ont pas honte du tout, mais en plus, étonnamment, ça fait vraiment avancer la recherche.
C'est votre jour de science. Ça se passe chez nous.
On va être très sérieux demain au parc Galéa, mon cher Fabrice, pour la conférence hebdomadaire.
Eh ouais, très sérieux et à la fois, c'est un sujet qui est passionnant. Hein. On parlera du cerveau avec la venue du docteur et chercheur en neurologie Laurent Cohen. Alors lui, il est auteur de découvertes majeures hein, qui concernent les mécanismes du langage, de l'apprentissage, de l'écriture et du calcul. Mais surtout, et c'est vraiment très très intéressant, Laurent Cohen est un des plus grands vulgarisateurs. Lorsqu'il s'agit de nous parler du cerveau, on comprend tout, enfin, avec ce type de scientifique. Et ça, c'est demain à 15h. Et puis, en parallèle, vous le savez, il y a également tous ces ateliers et jeux de piste pour les enfants, pour qu'il y ait aussi des lumières dans les yeux des petits.
À demain, donc, au Parc Galéa, à Taïwizulatchou. Merci, Fabrice.
Merci beaucoup, Christophe.
On se retrouve la semaine prochaine. On réécoute à volonté, bien entendu. Cette émission sans podcast. Bleu RCFM, rubrique C'est votre jour de science. Bonne soirée.
Bonne soirée.